toute cette semaine, même si vous n'avez pas eu la chance d'assister à la messe quotidienne, peut-être avez-vous eu cette curiosité d'aller fouiller l'Écriture sainte, puisque chaque jour de cette semaine, nous assistons à des apparitions de Jésus ressuscité qui se manifestent à chacun de ses apôtres et aux saintes femmes. Je voudrais partir d'un événement primordial que nous connaissons tous et qui concerne un homme, une femme et un jardin. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. Un homme, une femme et un jardin, les plus jeunes d'entre nous savent très bien de quoi il s'agit. Je veux parler du péché originel. Le péché originel, c'est cette espèce de tâche, cette espèce d'héritage malsain que nos premiers parents ont laissé, mais nous n'aurions pas fait mieux qu'eux, il faut bien le dire, et qui, de génération en génération, se transmet avant même que le petit homme, le petit brin de bonne femme dans le sein de sa mère ait pu faire usage de son intelligence et de sa volonté, de sa liberté en un mot, voilà qu'il lui faut subir cet héritage pas très sympathique qu'est le péché originel. Alors, lorsqu'on considère le péché originel, j'allais dire de trois choses l'une, soit on en nie l'existence, croyant que c'est là faire honneur à la dignité de l'être humain, mais alors on ne comprend plus grand-chose à ce mystère du mal, soit on se laisse accabler totalement par le mal, par ce péché qui entache l'être humain dès sa conception, on est révolté par le fait que Dieu ait permis cela, soit on se dit que finalement ce péché originel est une excuse assez tranquille pour pouvoir vivre paisiblement du mal qui nous accable et des assauts des passions, et on se dit que il nous sert d'excuse. De la même manière, souvenez-vous qu'Adam devant Dieu dit c'est pas moi, après la commission du péché originel, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. De la même manière que Ève a le culot de dire c'est pas moi, c'est le serpent qui a été à côté de moi et qui m'a tenté, nous avons la tentation de dire, il faut bien le reconnaître, c'est pas moi, c'est le péché originel qui a été commis par mes premiers parents et dont j'ai hérité en naissant, je n'ai rien demandé à personne. Seigneur, vous comprenez bien qu'il m'est plus facile de faire le mal que le bien. Je le sais bien, j'ai été racheté par le baptême, mais enfin, vous connaissez cela, ma pauvre nature ne me permet pas de faire le bien. Je crois que cette octave de Pâques, c'est-à-dire en réalité ce jour de Pâques qui dure pendant 8 jours, parce que c'est ce que nous permet la liturgie, dans le sillage de la loi ancienne, dans le sillage de ce qu'avaient compris les Juifs, pour bien jouir d'un événement, pour en comprendre la portée lorsqu'il s'agit d'un événement capital, un jour ne suffit pas, puisque nous sommes de pauvres êtres longs à comprendre. Il nous faut au moins 8 jours pour essayer de percevoir un peu les échos de cet événement de la résurrection. Qu'est-ce que c'est que cette octave de Pâques qui se clôt aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que cet événement de la résurrection? Sinon, l'événement qui permet que nous n'ayons plus d'excuses à trouver dans le péché originel. C'est la victoire définitive de Dieu sur cet événement primordial, sur ce péché de nos premiers parents et sur ce boulet dont nous héritons par notre simple conception. Regardez ce qui se passe, c'est tout à fait formidable. Pendant toute cette semaine sainte, mais en réalité dès le jour de Pâques, dès le jour de la résurrection, Jésus permet que ce premier homme, ce premier Adam, cette première femme, cette première Ève, qui ont été annihilés en quelque sorte, qui ont été partiellement détruits par le péché, et nous avec eux, nous sommes les héritiers, soient restaurés dans leur dignité. C'est quelque chose de fondamental, je ne parle évidemment pas de cette dignité dont on nous rebat les oreilles dans toutes sortes d'assemblées internationales, et dont je n'ai que faire, s'il ne s'agit de l'image de Dieu en nous, à quoi bon parler de dignité de l'être humain? Serait-il digne cet être qui est capable des pires holocaustes, qui est capable de la destruction de lui-même et des autres avec lui? Bien sûr que non. Cette dignité dont je parle, évidemment, c'est, encore une fois, cette dignité qu'il tient parce qu'il est à l'image de son Créateur. Parce que, dès le premier chapitre du livre de la Genèse, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image comme à notre ressemblance ». Tout cela avait été défiguré par le péché originel. Et que fait Jésus par la résurrection? Sinon, restaurer le couple primitif et toute sa descendance dans cette dignité primitive. Il va même plus loin, il va encore plus loin et il restaure de manière plus noble encore la race humaine qu'en Adam et Ève. Que se passe-t-il? Eh bien, dans un autre jardin que ce jardin originel, je veux parler du jardin de Gethsémani. Souvenez-vous, vendredi, il y a 10 jours, nous accompagnons le Seigneur dans cette agonie à Gethsémani. Et saint Jean prend vraiment la peine de nous préciser qu'il s'agit d'un jardin. Il y a chez saint Jean le théologien, évidemment, la volonté d'établir un parallèle avec le jardin de l'Éden, où nos premiers parents avaient défailli. Eh bien, ce que nos premiers parents ont défait, voilà que le Seigneur, avant même sa résurrection, commence à le refaire. Ils avaient affaire, nos pauvres parents, à un serpent, c'est-à-dire en réalité à un être maléfique, le diable, et voilà que Jésus, dans cet autre jardin qu'est Gethsémanie, s'affronte pour la dernière fois avec le diable, toujours le même, qui vient le tenter, qui vient le pousser à refuser ce calice. Et finalement, Jésus, par son obéissance, est vainqueur dans un jardin. Et il n'est pas anodin, je le répète, que les théologiens, que tous les évangiles précisent, et notamment chez saint Jean, qu'on précise qu'il s'agit d'un jardin, pour montrer le parallèle, l'antidote de Jésus par rapport à nos premiers parents. Il y a encore cet autre jardin, qui est le jardin du calvaire, parce que saint Jean précise que le lieu de la croix était un jardin en réalité. Le Golgotha, le lieu où Jésus a été crucifié, c'était un jardin. Et voilà que Jésus est vainqueur sur le bois d'un arbre nouveau, qui n'est plus cet arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est cet arbre de la croix. Jésus est vainqueur. Mais pas seulement Jésus. Et à Gethsémanie, et au calvaire, mystérieusement, dans ce nouveau jardin d'Éden, si l'on veut, il n'y a pas que le nouvel Adam, Jésus, mais il y a la nouvelle Ève qui est victorieuse. Parce que Marie, vous le savez, n'a pas vécu évidemment comme son fils de la passion au sens où elle aurait reçu les stigmates dans son corps. Il a fallu attendre ensuite de longues années pour que Marie meure. Mais la Vierge Marie a connu le mystère de la transfixion, c'est-à-dire cette union intime de son cœur immaculé au cœur sacré de son fils, c'est-à-dire une mort psychologique si l'on veut, une mort mystique au moment même où son fils mourait sur le bois de la croix. À Gethsémanie, lorsque Jésus était en train de ployer sous les tentations et où il était en train de vaincre Satan d'ores et déjà, sur le calvaire, dans cet autre jardin où Jésus était vainqueur par sa mort, entre tes mains je remets mon esprit, Seigneur, tout est accompli, dit-il à son Père, la Vierge Marie était également vainqueur du mal. Je veux dire que ce nouveau couple, le nouvel Adam et la nouvelle Ève, venait pallier l'insuffisance de nos premiers parents. Mais nous ne nous arrêtons pas là, pendant toute cette octave de Pâques, encore une fois j'espère que vous avez eu la curiosité non seulement d'aller chercher des œufs dans le jardin ou de vous gaver de sucre et de chocolat, ce qui est tout à fait légitime quand on a fait un carême comme le vôtre, mais j'espère que vous êtes allé fouiller un peu dans les textes. Qu'avons-nous vu? Eh bien nous avons vu une autre femme, un autre homme dans un autre jardin, qui ont cueilli les fruits de ce nouvel Adam, de cette nouvelle Ève, dans le jardin Gethsémanie et dans le jardin du Calvaire. Je veux parler de Sainte Marie-Madeleine, de Saint-Pierre, dans ce jardin du Sépulcre. C'est magnifique de voir combien Jésus et la Vierge Marie restaurent comme l'héritage néfaste du premier couple et combien ils en font bénéficier immédiatement après la résurrection ce premier couple restauré, j'allais dire ce premier couple qui est vivifié par le mystère de la résurrection. Qui sont-ils, ce nouvel Adam, cette nouvelle Ève en réduction que sont Sainte Marie-Madeleine et Saint-Pierre, sinon des pécheurs, de pauvres pécheurs? Sainte Marie-Madeleine, on le sait, est une collectionneuse d'hommes peut-être parce qu'elle voyait les rides gagner son front ou parce que les hommes l'avaient finalement délaissée à force d'être trop fanée, que voulez-vous. En tout cas, en rencontrant Jésus, voilà qu'elle est totalement bouleversée et qu'elle décide de changer de mœurs. Ce pauvre Saint-Pierre, dont Jésus a fait le premier pape, et qui est mort martyr, donc nous vénérons ce pauvre Saint-Pierre, pendant la semaine sainte, ne nous a pas trop édifié en réalité. Saint-Pierre, le premier des papes, alors même qu'il venait d'être consacré évêque, alors même qu'on venait de lui confier le pouvoir des clés, tout ce qui sera lié sur la terre par sa propre autorité sera lié aux cieux, délié sur la terre sera délié dans les cieux. Il est le chef de cette cohorte des 12 premiers. Il a le pouvoir de faire descendre Jésus sur l'autel. Faites ceci en mémoire de moi. Ce pauvre Saint-Pierre n'attend que quelques heures pour trahir son maître, nous le savons, et par 3 fois. Et pourtant, de cette pauvre pécheresse, de ce pauvre pécheur, le Seigneur Jésus décide de faire, à l'image de lui-même et de sa Sainte Mère, nouvel Adam et nouvelle Ève, un petit nouvel Adam et une petite nouvelle Ève en réduction. Regardez la délicatesse de Jésus. Ce qui est frappant pendant cette semaine, non pas la semaine sainte, mais cette semaine de l'octave de Pâques, la semaine de la résurrection, ce n'est pas tant la toute-puissance de Jésus. Nous aurions aimé, ah, nous aurions tellement aimé que Jésus sorte du tombeau et à la face de tous manifeste vraiment qu'il était le Fils de Dieu. Pour leur bien, évidemment, à tous. Non pas pour qu'il écrase les impies, mais pour que aucun homme ne puisse échapper à cette adhésion à Jésus-Christ sauveur, à Jésus-Christ ressuscité. Nous aurions tellement aimé. Mais Jésus ne fait pas éclater sa toute-puissance. Et jusqu'à aujourd'hui, que je sache, il n'est pas apparu à la face des peuples pour montrer en réalité qui il était. Il nous faudra attendre encore peut-être quelques heures, quelques jours, quelques siècles. Qui sait quand le Christ reviendra dans la gloire. Toujours est-il que au moment de la résurrection, c'est sur un mode beaucoup plus simple, beaucoup plus humble, beaucoup plus délicat que Jésus apparaît. Il se manifeste à la Madeleine sous les traits d'un jardinier, enfin c'est comme ça qu'elle le reconnaît au début du moins. Il se manifeste à Saint-Pierre au bout de deux fois. Saint-Pierre se rend au tombeau, tout d'abord ne comprend pas tout, il ne voit pas Jésus, contrairement à la Madeleine. Il rentre au Cénacle, il parle aux apôtres de ce qu'il a vu, et alors Jésus, comme le passe-muraille, leur apparaît à tous, Saint-Pierre en tête, montrant ses stigmates, montrant qu'il est bien ressuscité, qu'il n'a pas menti. Vous voyez cette délicatesse de Jésus qui, pour restaurer l'humanité et faire de la Madeleine la nouvelle Ève, en réduction encore une fois, de Saint-Pierre le nouvel Adam, en réduction encore une fois, se manifeste selon le tempérament de chacun. Selon d'abord la dignité de femme et la dignité d'homme que nous trouvons en Sainte Marie-Madeleine et en Saint-Pierre. Parce que fait Jésus? Il confie à Madeleine, c'est à elle qu'il apparaît en premier lieu. Cette pécheresse a eu le privilège insigne de voir apparaître Jésus en tout premier lieu, avant les apôtres et avant les autres saintes femmes. La Vierge Marie, sans doute, sans aucun doute, l'Écriture ne nous en dit rien, mais c'est convenable. La Vierge Marie, tellement unie à son Fils, a dû voir Jésus avant tous, mais on ne nous en dit rien. Le seul témoignage qu'on nous porte, c'est la Madeleine qui voit apparaître son cher Jésus. Il vient consoler sa sensibilité de femme et il vient restaurer cette dignité de la première Ève. Quelle est-elle cette dignité qui est celle de chacune d'entre vous, mesdemoiselles et mesdames? C'est d'être les gardiennes du cœur de vos époux, les gardiennes du cœur des hommes en général. C'est d'être en quelque sorte les apôtres des hommes. Vous êtes là pour apprendre aux hommes à aimer. Pas seulement vous-même, ce serait déjà pas mal, mais ce serait terrible finalement, ce serait captatif. Vous sentez qu'il y a plus. Vous êtes là pour apprendre à vos hommes à aimer Dieu. C'était ce que Dieu voulait dans le plan originel, faisons-lui une aide semblable à lui. Une aide semblable à lui. Ce n'est que lorsque Adam voit sa chère Ève, qu'il exulte de joie et qu'il dit « Voici enfin l'os de mes os, la chair de ma chair », il commence à aimer autre chose que lui-même, ce pauvre Adam qui était tout seul. Et dans la restauration pascale, qu'observe-t-on avec la Madeleine, qui était toute recroquevillée, la pauvre, qui n'attendait que les regards des hommes sur elle, et les caresses déplacées, les caresses impures, voilà que cette femme est restaurée dans sa dignité de femme, justement, parce que Jésus en fait l'apôtre des apôtres. C'est le nom qu'on donne à Sainte Marie-Madeleine. Il lui donne cette mission d'aller avertir les disciples, d'aller avertir les onze que Jésus est ressuscité. Elle est celle qui va exciter le cœur de ces hommes-là pour les faire sortir de leur turpitude, de leur torpeur parce qu'ils ont perdu leur Seigneur et que certains d'entre eux sont tentés de désespérer, à commencer sans doute par le premier d'entre eux, je veux dire le premier pape. Voilà que Madeleine arrive tout en feu et qu'elle est cette apôtre des apôtres, cette nouvelle Ève, aide semblable aux hommes, qui est là pour exciter leur cœur. Mais c'est magnifique. Chacune d'entre vous, mesdemoiselles, mesdames, devrait supplier chaque jour Marie-Madeleine d'avoir la même promptitude, la même joie, le même feu d'annoncer Jésus-Christ ressuscité à son époux, à ses fils, à son père, que sais-je, à tous les hommes qui vous entourent. Quant à nous les hommes, nous avons notre ration puisque avec Saint-Pierre, Jésus fait bien les choses, il restaure l'homme dans sa dignité primitive. Quelle est-elle cette dignité? Quelle est-elle cette place éternelle que le Père a réservée aux hommes, celle de l'autorité? Mystérieuse autorité qui se comprend si peu aujourd'hui qu'on ait peur de lire l'épître de saint Paul, « Femmes, soyez soumises à vos maris et vous les hommes », etc. Mais Dieu a voulu que l'homme ait l'autorité, et dans le couple, et dans la société. Voilà que Saint-Pierre a défailli, bien sûr, qui d'entre nous exerçant l'autorité, moi pasteur en tête, chaque jour je trahis cette autorité, vous le savez bien, et vous les époux, vous les pères, vous trahissez cette autorité, tant pis, je le dis devant vos enfants, devant vos épouses le savent, vous... voilà. Eh bien, voilà que Jésus va restaurer Saint-Pierre dans cette autorité, en le confirmant dans ce qui fait le fond de sa masculinité, son autorité. Mon pauvre Pierre, tu as défailli, tu as été un traître, mais c'est toi que je veux voir approcher du tombeau avant même mon cher disciple bien-aimé Saint Jean. Lorsque nous relisons Saint Jean, nous voyons cette délicatesse de Jean qui laisse entrer Saint Pierre avant lui. Et c'est Saint Pierre qui voit et qui ensuite va établir fièrement devant les apôtres, rationnellement, contrairement à ces dames qui lui ont raconté avant, qui ont assisté au spectacle avant lui, il va raconter aux apôtres, avec son autorité pétrinienne, l'autorité du premier pape, ce qui s'est passé. Et il sera enflammé jusqu'à subir le martyre que nous connaissons à Rome, c'est-à-dire la croix à l'envers par générosité. Il n'a pas voulu être crucifié dans le même sens que son Seigneur. Voyez donc ce feu que Jésus allume, et je terminerai là, dans le cœur de cette nouvelle Ève, cette petite nouvelle Ève. Mais oui, ils sont à notre mesure, la Vierge Marie et Jésus, que voulez-vous? Le nouvel Adam et la nouvelle Ève sont vraiment très loin de nous. Il faut bien le remarquer. Immaculée conception tous deux, et immédiatement entrés dans la gloire après leur mort, c'est assez loin de nous. Il y a plus proche de nous la Madeleine, et mesdemoiselles, mesdames, il n'y a pas à rougir d'être à l'image de la Madeleine. Sans doute n'avez-vous pas son passé, j'espère que vous aurez son avenir du moins, ou que dans l'avenir vous vous conformerez à elle. Et quant à Saint-Pierre, voilà qu'il nous restaure, nous les hommes, dans notre rôle. N'ayons pas peur, quelles que soient nos défaillances, d'exercer cette autorité, parce que le Seigneur confirme Pierre dans sa mission. Il nous demande à nous aussi, pécheurs que nous sommes, qui trahissons non pas trois fois, mais sept fois le jour notre Seigneur, de persévérer dans cette tâche qu'il veut pour nous. Voyez cette manière dont Jésus récapitule la race humaine, dont il diffuse les effets de sa résurrection et dont il communique avec une délicatesse que lui seul peut avoir, à l'homme en particulier, à la femme en particulier, une consécration nouvelle de la mission qui, depuis la création, avait été donnée à l'homme et à la femme. Je demande évidemment à la Vierge Marie, nouvelle Ève, à Jésus notre Seigneur, nouvel Adam, de savoir comment vivre, nous les hommes et vous les femmes, de cette autorité pour nous les hommes, de cette délicatesse, de ce zèle, de cette garde du cœur de vos hommes, vous les femmes, parce que les modalités sont propres à chacun d'entre nous, il n'y en a pas deux pareilles, mais qu'au fond, c'est de la même mission qui a été confiée à notre chère Marie-Madeleine et à notre cher Pierre que nous devons vivre, pas seulement pendant l'octave de Pâques, mais également pendant tout le temps pascal et plus jusqu'à la mort. Puisse le Seigneur nous cueillir dans cette fidélité à la mission féminine pour vous, à l'image de Madeleine, et masculine pour nous, à l'image de Saint-Pierre. Au nom du Père, du Fils et